Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Parole aux auditeurs, une émission interactive qui permet de vous exprimer. Ce lundi 14 décembre 2009, Parole aux auditeurs s'intéresse à la poliomyélite, cette maladie qui demeure un problème de santé majeur dans la province du Bas-Congo suite à l'enregistrement des nouveaux cas à Sekebanza et à Luozi. Selon les autorités sanitaires, un seul cas suffit pour déclarer une épidémie suite à la vitesse de contamination du poliovirus. Pourtant, ce vaccin contre cette maladie qui rend infirme se donne gratuitement et cela fait plus de 5 ans qu'au-delà des vaccinations de routine, il se tient des campagnes de vaccination contre cette maladie pour les enfants âgés de 0 à 5 ans. Qu'est-ce qui est à la base de cette persistance de ces cas de poliomyélite? Que faut-il faire pour éradiquer complètement la poliomyélite sur toute l'étendue de la RDC? Pour en parler, nous avons invité Dr Guilain Kaya, il est le directeur adjoint du programme élargi de vaccination. Ce sujet vous intéresse, vos avis, propositions et questions sont attendues au cours de cette émission.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
La poliomyélite demeure un problème de santé majeur dans la province du Bas-Congo du fait de l'enregistrement de nouveaux cas à Sekebanza, Luozi. À l'origine, certaines croyances religieuses, fétichistes et coutumières qui font que certaines personnes refusent de faire vacciner leurs enfants sous prétexte que les vaccins entraîneraient d'autres maladies. Pour parler de ce sujet, nous avons déjà une série d'auditeurs. Le premier auditeur, c'est Didier, il nous appelle de Badolit. Bonjour Didier.
Bonjour madame.
Oui Didier, par rapport à cette affaire, cette maladie de la poliomyélite, que faut-il faire pour sensibiliser ces populations?
Oui, en ce qui concerne ce sujet, madame, j'aurai deux points à soulever. Le premier point concerne l'éradication de cette maladie, madame. Donc, selon moi, pour éradiquer la poliomyélite, il faut que tous les parents de la RDC puissent aider le programme de la vie de vaccination à mener massivement des enfants au sein. Élaborer pour les faire vacciner contre cette maladie qui menace encore la RDC. Alors, le deuxième petit point, madame, j'aimerais avoir passé ce point est une question. Est-ce que le gouvernement congolais s'est acquitté déjà de ces vieux financements que demandaient les PEVS? Si oui, c'est une bonne chose. Et sinon, madame, j'encouragerais le gouvernement de donner cette somme, en fait, que les pays qui prêtent main forte aux PEVS ne puissent pas suspendre leur aide, madame.
Oui, Didier, on va poser cette question à notre invité qui va venir d'un moment à l'autre dans ce studio. Ouais. Sinon, nous allons demander à nos services de pouvoir continuer à chercher l'information. Peut-être qu'on pourra vous donner aussi des informations là-dessus. Mais concernant la mobilisation et la sensibilisation des parents afin d'amener leurs enfants à la vaccination, quelles sont les méthodes que vous pouvez proposer, à vue que les enfants, les parents puissent amener leurs enfants à la vaccination et aider ainsi le programme élargi de vaccination? Didier?
Oui,
mais vous avez dit qu'il faudrait aider le programme élargi de vaccination, mais quelles sont les méthodes que vous pouvez proposer aux parents afin qu'ils soient mobilisés, amener leurs enfants à la vaccination?
Oui, parce qu'il y a des parents, madame, qui veulent amener leurs enfants au centre, c'est pour
C'est très difficile, la ligne s'est détériorée, on ne vous suit pas très bien, peut-être qu'on pourra essayer de vous recontacter pour avoir une meilleure qualité de son. Merci quand même Didier d'avoir participé à cette émission. Pour vous, il est question de pouvoir appuyer, soutenir le programme élargi de vaccination pour que les parents puissent amener leurs enfants à la vaccination. Nous avons un autre auditeur, c'est dit Arsène. Bonjour Arsène.
Bonjour madame.
Arsène, on vous écoute.
Ok, moi je parlerai plus sur l'homme. Vous savez, quand vous avez la facilité de comprendre quelque chose, et vous comprenez directement le danger et où et comment ça vient. Mais l'ignorance peut entraîner la personne à ne pas croire au danger qui s'amène.
Mm-hmm.
Moi, je parlerai plus, s'il faut parler de stratégie, il y a deux choses que je voulais parler là-dessus. Il y a la loi. On peut utiliser la loi comme première arme pour sensibiliser d'abord la population. Que ça soit d'abord une loi que tout parent doit comprendre qu'il y a un danger qui arrive, il faut protéger les enfants, il faut protéger l'avenir. En second lieu, il y a la méthodologie même qu'on utilise pour faire comprendre aux gens. Les églises sont là, les ONG sont là. C'est question de sensibiliser surtout les incrédules à comprendre que c'est un danger permanent qui existe et qu'on doit combattre. Là, nous aurons la facilité, tout le monde ensemble, d'aller vers cette bataille-là. Mais quand un coin, les gens ne comprennent pas c'est quoi, c'est cette maladie-là qui est en train de déranger tout le monde, on parle des kindoki, on parle de croyances, ainsi de suite, là, ça deviendra un peu difficile à une couche de la population de comprendre que nous avions un danger qui s'amenait. Donc, on peut utiliser les églises, ça touche sur la foi humaine. On utilise les coutumiers, les chefs coutumiers qui ont une parole avec un certain pouvoir sur la population. Et là, on peut déjà faire un pas. Et le gouvernement doit aussi prendre sa part des choses. Parce que le gouvernement de foi, il néglige de toutes situations qui peuvent dégénérer un jour. Il néglige, il croit peut-être, mais non. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités en main. Mm-hmm. C'est ça ma petite contribution.
Oui, Arsène, vous avez fait allusion à la loi. Quand vous faites allusion à la loi, que voulez-vous dire? Qu'il y ait une loi qui puisse contraindre les parents ou une obligation aux parents à pouvoir faire vacciner leurs enfants?
Ok, quand je parle de loi, je veux dire une obligation physique, parce que c'est un danger. C'est comme une guerre que nous sommes en train de mener, ça doit être une obligation physique. Et là, ce sont nos parlementaires qui doivent prendre les choses en main.
Merci beaucoup, Arsène, pour vos propositions. Pour vous, il est question de pouvoir qu'il puisse y avoir d'abord une loi qui puisse contraindre les parents à devoir vacciner leurs enfants, surtout contre la poliomyélite, parce que cette maladie, ça rend infirme, et puis c'est irréversible, et aussi cette maladie n'est pas curative, mais aussi la méthodologie. Vous pensez qu'il faudrait passer par les églises, passer par les pasteurs, afin de pouvoir sensibiliser davantage les populations.
Parole aux auditeurs.
C'est Parole aux auditeurs et aujourd'hui nous parlons de la poliomyélite. Il y a le problème de poliomyélite qui est devenu un problème de santé majeure dans la province du Bas-Congo du fait de l'enregistrement des nouveaux cas à Sekebanza et à Luozi, à l'origine certaines croyances religieuses, fétichistes et coutumières qui font que certaines personnes refusent de faire vacciner leurs enfants sous prétexte que les vaccins entraîneraient d'autres maladies. Cette mentalité rétrograde risque de freiner l'éradication de la polio d'ici 2014 dans cette province. Il faudrait dire que concernant la vaccination contre la poliomyélite, il y a plusieurs partenaires qui participent, qui s'emploient à pouvoir mettre de l'argent pour pouvoir éradiquer cette maladie. Il y a les partenaires de la RDC, il y a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y a l'UNICEF, il y a aussi Rotary Club et la coopération technique belge dans son volet santé, qui mettent à la disposition du gouvernement congolais d'importants moyens, tant matériels que financiers, pour lutter contre la poliomyélite et d'autres maladies transmissible. Mais il se fait qu'il y a des cas qui sont en train d'être enregistrés au Bas-Congo, à Sekebanza et à Luozi. Nous avons Paul, un auditeur, qui nous appelle de Béni. Bonjour Paul.
Bonjour madame, j'aimerais savoir concernant toujours cette maladie, si ceux qui sont en train de souffrir n'ont pas, en fait, eu la chance là d'être vaccinés, puisque il y a des années passées, quand on avait passé le vaccin, je ne sais pas, partout en République démocratique du Congo, si ces gens-là sont des enfants nés ces dernières années ou sont des enfants qui étaient nés il y a quelques temps.
Oui, nous allons poser cette question à notre invité pour savoir les cas qu'on a enregistrés. C'était les enfants de quel âge, comme vous l'avez dit, ça fait ça fait plus de 5 ans qu'il y a des campagnes de vaccination contre la poliomyélite qu'on associe même avec des vitamines A ou bien avec des vermifuges pour pouvoir préserver nos enfants. Et aussi, il faudrait dire que la vaccination contre la poliomyélite, il y a aussi dans la vaccination de routine, il y a aussi un vaccin contre la poliomyélite qu'on remet et qu'on donne aux enfants. Donc Paul, on pourra avoir peut-être plus de précision concernant l'âge de ces enfants pour savoir si c'était des enfants qui sont nés au Congo ou bien ce sont des enfants qui sont nés ailleurs, parce que la lutte contre la poliomyélite c'est dans presque tous les pays voisins de la RDC. Mais Paul, est-ce que vous avez des propositions pour pouvoir mettre en place la mobilisation des parents pour lutter contre le poliovirus?
En tout cas, je pense qu'il faut mettre le pied en œuvre puisque ça commence à menacer un peu partout là. Et autre chose, peut-être c'est il faut bien battre la campagne de vaccination puisqu'actuellement, comme par exemple la maladie vient de battre au niveau de Bas-Congo là. Je ne sais pas si après avoir passé de maison en maison pour le vaccin, si les parents vont chaque fois accepter de donner à leurs enfants le vaccin. De moi, je me demande, après le vaccin, maintenant la maladie vient ravager la population, ça ne va pas.
Mm-hmm.
Donc, alors, comme proposition, moi, personnellement, je dirais que il faut mettre les pieds en œuvre pour bien battre la campagne, peut-être aussi entrer de maison en maison, pour bien discerner aussi le vaccin, si ça vient pour nous aider, ou si c'est pour rendre aussi des firmes les enfants que peut-être qui sont en train de naître, en fait.
Oui, en fait, merci beaucoup, Paul. Pour vous, il faudrait sensibiliser vraiment les parents et dire aux parents que ce vaccin qui se donne d'ailleurs gratuitement, qu'ils puissent le recevoir pour protéger les enfants contre cette maladie qui rend infirme. Et aussi, il faudrait dire que cette maladie n'est pas curative, donc quand on en souffre, il y a toujours des séquelles et ça rend infirme. Nous poursuivons cette émission concernant la poliomyélite. Merci beaucoup, Paul, d'être intervenu.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net. Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec internet, vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Ce lundi, Parole aux auditeurs se consacre à la lutte contre la poliomyélite, cette maladie qui demeure un problème de santé majeur dans la province du Bas-Congo suite à l'enregistrement des nouveaux cas à Sekebanza et à Luozi. Selon les autorités sanitaires, un seul cas suffit pour déclarer une épidémie suite à la vitesse de contamination du poliovirus. Pourtant, ce vaccin contre cette maladie qui rend infirme se donne gratuitement et cela fait plus de 5 ans qu'il y a chaque année des campagnes de vaccination, donc au-delà des vaccinations de routine qui se tiennent dans toutes les provinces, dans chaque endroit fois, plutôt dans chaque zone de santé. Cette vaccination, cette campagne de vaccination, concernait les enfants âgés de 0 à 5 ans. Et pour en parler dans Parole aux auditeurs, nous avons deux questions. Qu'est-ce qui est à la base de la persistance de ces cas de poliomyélite et que faut-il faire pour éradiquer complètement la poliomyélite sur toute l'étendue de la RDC? Si vous voulez participer à cette émission en direct, vous avez deux possibilités. Vous pouvez nous appeler au 081-99-7800, le 081-99-7800, ou vous pouvez nous écrire par internet à l'adresse pa@radiookapi.net. Nous avons Augustin qui nous appelle de Kindu. Bonjour Augustin.
Bonjour madame la journaliste.
Oui Augustin, que faut-il faire vraiment pour pouvoir éradiquer cette maladie?
Merci d'avoir m'accordé la parole. Je dirais que pour éradiquer la poliomyélite, il y a tout un processus.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a de cela 5 ans, nous voyons chaque année, on vaccine les enfants. Alors, on se demande, est-ce que c'est vraiment la vraie vaccination, on fait les vraies vaccinations pendant toutes les 5 ans là-bas.
Mm-hmm.
Parce que si nous tenons compte de ce que nous voyons, les réactions des maladies qui apparaissent après que les enfants soient vaccinés, on se dit que peut-être ce n'est pas le vrai dose qu'on donne aux enfants. C'est un problème de dosage aussi.
Donc, selon vous, Gustave, vous pensez qu'il y a un problème de dosage, c'est un problème plus du côté de la santé, mais quand même, si vous avez une fois observé comment est-ce qu'on donne ces vaccins aux enfants, souvent ce sont des doses, 2 gouttes, 3 gouttes, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aurait un problème de dosage?
Bon, si je parle de dosage, ce n'est pas tellement le problème de dosage comme tel, mais j'ai dit qu'il n'y a pas aussi de suivi. Parce que lorsque les vaccinateurs sont sur le terrain, dans les quartiers,
mm-hmm.
Il ne participe pas vraiment à faire vacciner tous les enfants. Moi, j'y ai été une fois à Kisangani.
Mm-hmm.
Des fois, quand on est fatigué, vers 12h, on se dit, bon, on peut remplir la liste des enfants qui ont été vaccinés parce que, pourvu que nous ayons le nombre qu'on nous a demandé, et on aura notre argent. Parce que toutes les couches ne sont pas atteintes par la vaccination.
Mais quand même, il y a le système de porte-à-porte. À l'époque, à un moment, il fallait chaque vaccinateur aller d'une porte à une autre. Il y avait même des petits dessins qu'on mettait sur la porte pour montrer qu'ici, il y a des enfants et des enfants qui doivent être vaccinés. Est-ce que c'était le cas chez vous à Kindu?
Bon, oui, ça se fait aussi chez nous à Kindu. Les vaccinateurs passent des portes à porte pour demander qu'il y ait des enfants qui ont moins de 5 ans après qu'ils soient vaccinés.
Mm-hmm. Et concernant la mobilisation des populations afin qu'ils puissent se mobiliser, excusez-moi pour la tautologie, quelles sont les stratégies que vous pouvez proposer pour qu'il y ait un changement de comportement?
Bon, moi je voulais proposer à ce que le ministère de la Santé doit peut-être initier de la façon de travailler. Je ne vois pas aussi si c'est aussi bien que chaque année qu'on puisse vacciner les enfants. C'est parce qu'on puisse même laisser des intervalles, peut-être une année après, on vaccine les enfants. Comme ça désire d'être bébé à 5 ans, ça c'est la première proposition. Et la seconde, bon, étant donné que c'est aussi un marché, hein.
Mais il ne faut pas oublier, Augustin, hein, Augustin, que les enfants naissent chaque jour. Alors, si vous vous imaginez, si on doit qu'il y ait des intervalles, est-ce que vous pensez qu'il y aura, tous les enfants seront touchés?
Bon, ils seront touchés parce que j'ai dit, après une année, on peut vacciner. Ce n'est pas chaque année qu'on peut vacciner les enfants.
Donc, Augustin, vous restez en ligne. Il y a Delphin qui nous appelle de Matadi. Bonjour, Delphin. Delphin?
Oui, c'est bon.
Oui, est-ce que vous êtes de l'avis d'Augustin qu'il faudrait peut-être qu'il y ait des intervalles pour la vaccination?
Bon, ça, je ne crois pas du tout.
Mm-hmm, et
à ceux qui m'ont dit ça, cher, moi, j'étais vaccinateur en l'an 2000.
Mm-hmm.
Il y avait une journée dans le centre de vaccination qui a duré pratiquement 3 phases.
Mm-hmm.
Mais j'avais vite compris que, dans notre équipe, on avait vite compris qu'il y avait aussi une exigence du côté des parents. Quand on arrivait avec la stratégie porte-à-porte, certains parents ne pouvaient même pas faire sortir les enfants pour être vaccinés. Maintenant, du moins, on signalait au niveau de nos sites, hein,
mm-hmm.
que dans telle adresse, certains parents avaient refusé. Mais ce qui est vrai, quand j'étais à Kinshasa, bon, une année ou quelques mois passés, il y a eu des rumeurs depuis les églises qui disaient que certains produits en provenance de l'Europe sont des produits à titre 666. Bon, si, ce sont aussi des facteurs qui empêchent la banque
financière. Qu'est-ce que vous voulez dire par des produits à titre 666?
666, c'est la marque de la bête qui nous a toujours été prêchée par la Bible. Alors, certains parents en ont tenu considération et ne savent plus vraiment livrer leurs enfants à pouvoir être vaccinés.
Mais concernant la mobilisation, est-ce que vous êtes aussi de l'avis d'Augustin qui pense qu'il y a vraiment un laisser-aller par les hommes de santé?
Non, la mobilisation, ça, du moins, je suis vacciné. Je sais qu'il y a des campagnes qui se font avant même le début des vaccinations.
Mm-hmm.
Il y a vraiment des fortes mobilisations. Ça, je sais, nos enfants tous ont été vaccinés chaque fois que les vaccinateurs faisaient leur campagne porte-à-porte.
Augustin, vous avez suivi Delphin, hein. Vous avez vu pour Delphin, lui-même il était d'ailleurs mobilisateur, il pense que ce serait un peu difficile, vos propositions seraient un peu compliquées. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Augustin? Augustin? Oui, est-ce que vous avez quelque chose à
rajouter? Ils ne sont pas tout à fait d'accord de certains produits, des vaccins, ils disent que ce sont des vaccins qui sont parfois à radier. Et ça peut donner des morts à leurs enfants. Ils ont des doutes, hein?
Merci beaucoup, Augustin, d'avoir participé à cette émission. Hein. Nous allons faire un effort pour avoir un homme de la santé, un vaccinateur, qui puisse vous certifier que la vaccination, qui est gratuite d'abord pour aider et protéger nos enfants, et selon vous, Delphine, qu'est-ce qu'il faudrait pour briser cette rumeur?
Bon, c'est pas chose facile, c'est un peu de l'occulture, hein. Mais ce qui est certain, c'est que les parents doivent prendre des consciences et avoir confiance à nous, à nos agents de santé.
Mm-hmm.
Parce que tout ce que nous avons accepté, ce qui est proposé les agents de santé, parce qu'ils sont finis par rapport à ceux qui sont encore pour santé. C'est question de confiance, hein. C'est question de confiance.
Oui, déjà vous restez en ligne parce que vous avez été vaccinateur, donc vous avez été proche des parents, vous avez vu vous-même comment ça s'est passé. Nous avons un autre auditeur, il s'agit de Florian. Bonjour Florian.
Ah, bonjour madame.
Oui, vous nous appelez aussi de Matadi. Florian, est-ce que vous pouvez aussi donner votre témoignage concernant la sensibilisation dans la lutte contre la poliomyélite?
Ok, merci madame. Moi je voulais intervenir pour dire que les responsabilités sont partagées. Ce qui fait que, qu'il y a toujours persistance des cas. Premièrement, moi, je donne la responsabilité d'abord au ministère de la Santé, c'est-à-dire au gouvernement, et il y a aussi la communauté, c'est-à-dire les parents qui ont des enfants qui doivent se vacciner, et enfin, le gouvernement. Je voulais parler pour le ministère, c'est-à-dire ceux qui vaccinent. Hein.
Mmh.
Apparemment, dans notre pays ou dans nos pays, moi, je pense qu'il y a une petite négligence par rapport à ce qui est de la prévention des maladies en général. C'est ce que je remarque. Et c'est ce qui fait que, malgré le fait qu'on vaccine chaque fois, mais on n'atteint pas toujours les cibles de ceux qui devraient être vaccinés. C'est comme ça que nous avons parfois des cas des enfants qui manquent la vaccination. Ça, c'est dans la routine. Et pour la communauté, nos parents, ceux qui résistent jusque-là, parce que ça fait beaucoup de temps qu'on a commencé la vaccination, et c'est chaque année, chaque fois qu'il y a une campagne, qu'on note des cas de résistance. Ça laisse quelques poches des enfants qui ne sont pas vaccinés.
Mmh.
Alors, au niveau des gouvernements, ils devraient prendre cet aspect-là en compte, de telle manière que chaque fois qu'on passe à la sensibilisation et que la résistance continue, je crois qu'il faudra changer de méthode. Donc, moi, je suis pour la coercition que le gouvernement puisse. Je pousse un peu ce que l'ami avait dit par rapport à la loi, hein, c'est-à-dire quand on met une loi qui est la vaccination, et on doit aussi prévoir des sanctions quand ça persiste.
Mm-hmm.
Et c'est ce qui ferait peut-être qu'on puisse manquer des cas. Alors, pour les amis qui vaccinent, les inspecteurs provinciaux, les contrôles, tout ça, ils doivent savoir que ils doivent fournir des efforts pour atteindre les objectifs. Parce qu'on commence à penser que quand il y a présence des cas de poliomyélite, c'est comme si ça fait du bien pour certaines personnes qui attendent des campagnes de vaccination pour avoir de l'argent. C'est ce que ça présage, mais c'est ce qui explique parfois certaines résistances. Voilà ce que je voulais dire.
Oui, Florian, on vous garde encore, hein, parce que quand même, si on organise des campagnes de vaccination, c'est pour aller maintenant vers les populations, parce que les vaccinations de routine, là, ce sont les populations qui vont vers les centres de santé. Mais avec les campagnes de vaccination, on a l'inverse, donc ce sont les hommes de santé qui vont vers les populations. Déjà, avant que vous puissiez nous quitter, bien sûr, par rapport à cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette mobilisation qu'il faudrait nécessairement appuyer, qu'il faudrait augmenter, si on peut dire ça comme ça?
Oui, appuyer, il faut toujours appuyer, parce qu'il y a eu deux possibilités, il y a une possibilité dont les agents de santé vont vers les familles pour pouvoir vacciner. L'autre possibilité, ce sont les familles qui vont vers, ça dépend d'un coin à l'autre, parce qu'il y a des endroits où on ne sait même pas facilement accéder.
Mm-hmm.
Alors, que faut-il faire? Mais assez que je sache, moi, selon l'expérience que moi j'ai acquise, il y a 3 mois, hein, là où on a, quand on avait passé cette vaccination, j'attribue beaucoup de torts aux parents. Parce qu'il fallait d'abord à un superviseur de connaître, il y avait des superviseurs qui devaient d'abord connaître les plans de la ville,
mm-hmm.
connaître à peu près le nombre de quartiers. C'était un travail qui a pris pratiquement 3 mois pour pouvoir identifier tous les enfants de la ville de Magadou.
Mm-hmm.
Et les répartitions ont été faites selon que les superviseurs avaient élaboré leur plan.
Oui.
Nous avons vacciné pratiquement les 95% selon les plans. Mais on avait constaté, tel que j'avais dit, il y avait quand même quelques poches de résistance.
Oui.
Comme l'ami a venu de dire, là, il faut soit une sanction, augmenter un peu les mesures pour savoir à quoi il y a certains facteurs de résistance.
Merci beaucoup, Delphin, d'avoir participé à cette émission pour la lutte contre la poliomyélite. Florian, avant aussi de vous laisser pour que d'autres auditeurs puissent aussi participer, vraiment, quelle est la partie qu'il faudrait nécessairement utiliser ou la méthode qu'il faudrait vraiment appliquer pour pouvoir sensibiliser davantage le gouvernement, les parents, les hommes de santé, parce que selon vous, vous pensez que les responsabilités sont partagées?
Madame, je crois que nous ne pouvons pas nous fatiguer pour mobiliser, pour continuer à sensibiliser, parce que c'est notre devoir.
Mm-hmm.
Tous les communautés où vous savez qu'il y a un problème d'analphabétisme dans notre pays, donc il faut utiliser vraiment des méthodes de proximité, il faut compter en utilisant les ONG, les leaders des communautés, les églises. Je crois que ça peut aller, mais apparemment on ne les utilise pas à fond. Donc il n'y a pas que les câbles, la communication des marches, parce que beaucoup de gens ne suivent pas bien la radio et tout ça, mais il faut avoir une communication vraiment de proximité interpersonnelle, renforcer l'action des relais communautaires. J'ai plus mes dessins, je ne sais pas comment ça alors. Renforcer cette communication vraiment interpersonnelle, hein, pas seulement quoi, la communication des marches. C'est comme ça, je pense qu'on pourra atteindre, concrétiser vraiment, les proches approches.
Oui, Florian, vous avez dit que vous êtes médecin, heureusement pour nous, mais il y a un autre auditeur qu'on vient de laisser. Il s'agissait de Paul, il y avait même d'autres auditeurs qui ont même fait ressortir que peut-être il y a des rumeurs selon lesquelles la vaccination ne protège pas les enfants, mais ça détruit. Est-ce que vous pouvez confirmer que ces vaccins sont de bonne qualité et que c'est pour l'avantage des populations et de nos enfants?
Oui, madame, je ne peux pas aller jusqu'à dire qu'il y a que les vaccins détruisent. Non, non, non. Il y a vraiment, ce sont des vaccins. Avant de mettre tout médicament sur le marché, je crois qu'il y a une série de processus par lesquels ça doit passer. On ne peut pas se livrer à administrer quelque chose à une masse comme ça, sans que ça soit de qualité, que ça puisse avoir des effets négatifs. Puisque, donc, là, nos amis, les auditeurs, là, je pense, moi, ils peuvent se calmer. Les vaccins qu'on donne, c'est réellement pour protéger la population. Ce sont des médicaments, dès qu'on les a, et ça, parce que moi, nous-mêmes qui sommes ici, nous avons un quelque étage ici, nous avons reçu beaucoup de vaccins. Ça n'a pas commencé maintenant la vaccination. C'est depuis longtemps, mais nous avons atteint l'âge que nous avons, nous travaillons, nous avons étudié et puis nous travaillons. Donc il faut que ces rumeurs-là, il faut arriver à combattre ces rumeurs-là pour ceux au moins qui ont la bonne information. Je sais que c'est l'ignorance parce qu'il fait lire, qu'il fait croire aux gens de telles assertions.
En tout cas, merci beaucoup Florian d'avoir certifié à nos auditeurs que les vaccins qu'on donne aux enfants, qu'on administre aux enfants, ce sont des vaccins de bonne qualité et aussi que c'est pour les protéger.
Parole aux auditeurs.
Nous avons Dalmon qui nous appelle de Kisangani, mais aussi Dr Richard de Kinshasa. Avant de passer la parole aux auditeurs, nous tenons quand même à pouvoir rappeler notre thème. Aujourd'hui, nous parlons de la poliomyélite avec cette maladie qui demeure un problème de santé majeur dans la province du Bas-Congo suite à l'enregistrement des nouveaux cas Sekebanza et à Luozi. Selon les autorités sanitaires, un seul cas suffit pour déclarer une épidémie suite à la vitesse de contamination du poliovirus. Pourtant, ce vaccin contre cette maladie qui rend infirme se donne gratuitement et cela fait plus de 5 ans qu'au-delà des vaccinations de routine, il se tient des campagnes de vaccination pour les enfants âgés de 0 à 5 ans. Qu'est-ce qui est à la base de la persistance de ces cas de poliomyélite? Que faut-il faire pour éradiquer complètement la poliomyélite sur toute l'étendue de la RDC? Si vous voulez participer en direct à cette émission, vous avez deux possibilités. Vous pouvez nous appeler au 081 99 77 800 ou vous pouvez nous écrire par internet à l'adresse pa@radiookapi.net. Nous avons invité Dr Guylaine Kaya qui est coordonnateur directeur adjoint du programme élargi de vaccination. Il pouvait nous donner toutes les informations concernant la vaccination contre la poliomyélite, mais jusqu'à présent on n'arrive toujours pas à le joindre. On a essayé, il nous a dit qu'il était dans un bureau devant le secrétaire général à la santé. Peut-être que dans les minutes qui vont suivre, il pourra être en ligne et donner plus de confirmations par rapport, plus d'informations plutôt par rapport à cette situation sur le poliovirus sauvage. Comme je vous l'ai dit, il y a Dalmon qui nous appelle de Kisangani. Bonjour Dalmon.
Bonjour mon frère.
Oui Dalmon, on vous écoute.
Oui.
Oui, on vous écoute Dalmon.
Oui, en ce qui concerne la persistance de cette maladie, à mon avis, je crois que c'est le problème d'attitude.
Mm-hmm.
Nos parents ont souvent une attitude négative en ce qui concerne surtout les vaccins. Des fois, vous trouverez passer par là des personnels de santé parce que vouloir vacciner les enfants. Il y a de ces parents qui ne veulent pas exhiber leurs enfants afin qu'ils soient vaccinés. Je crois que le gouvernement doit prendre certaines mesures assez au sein des parents qui ne veulent pas vacciner. Ce sont eux qui font à ce que, malgré les vaccins qui s'administrent, la persistance ait lieu.
Mm-hmm.
J'ai une proposition à faire. On peut peut-être organiser des groupes. C'est comme la lutte contre les sida. Il y a des groupes anti-sida dans des quartiers. Il serait mieux de créer des antennes de sensibilisation, par exemple, la poliomyélite, informer aux parents. Donc, c'est le problème d'attitude, changer leur attitude qui est négative, afin que ces derniers accèdent à faire vacciner leurs enfants.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Dalmon, pour toutes ces propositions qui sont assez concrètes. Vous pensez qu'on devrait lutter contre la poliomyélite, comme on le fait contre le VIH-SIDA, qui est vraiment des structures de base de lutte contre cette maladie. Vous pensez aussi qu'il faudrait qu'il y ait une loi, qu'il y ait des contraintes, une obligation pour que les parents puissent se faire vacciner leurs enfants. Merci également d'avoir participé à cette émission. Nous avons le docteur Richard qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour docteur.
Bonjour Radio Kapi, bonjour les auditeurs, bonjour.
Bonjour docteur, on vous écoute.
Allô?
On vous écoute docteur par rapport à ce sujet sur la poliomyélite.
Oui, au sujet de la poliomyélite qui revient dans le Bas-Congo, moi je vois trois choses. La première chose c'est le vaccin, la deuxième chose c'est la chaîne de froid, et la troisième chose c'est les familles par rapport à la volonté d'aller faire vacciner les enfants. Mmh. Alors pour la première chose, donc le vaccin, s'il est de bonne qualité, il ne posera pas de problème. Une fois donné, il va faire reculer le problème. Alors, la deuxième chose, c'est que la chaîne de froid, s'il est mauvais, donc une chaîne mauvaise, peut abîmer le produit, donc le vaccin, et tout ce qu'on va donner comme produit ne va pas agir. C'est pourquoi on peut avoir un mal, donc la polio, qui revient. Alors, la troisième chose, c'est la volonté des parents d'amener les enfants. La plupart des personnes qui présentent la polio sont souvent les membres de famille donc les enfants qui n'ont pas été amenés à la vaccination. Donc ils sont victimes de ce virus de polio qui est en train de détruire les enfants.
Mm-hmm. Docteur Richard, il y avait un auditeur qui nous a posé la question pour savoir pourquoi est-ce que ces personnes qui souffrent du virus qui n'ont pas été vaccinées, c'est le fait qu'ils soient en RDC ou bien qu'ils viennent d'ailleurs. Pourquoi ces enfants-là peuvent présenter cette maladie-là?
Oui, les enfants qui présentent ces problèmes sont soit les enfants des parents qui sont en mouvement entre les frontières. Nous voyons la RDC et l'Angola, et la RDC et le Cabinda. Voilà. Si les enfants sont en mouvement sans que les parents les soumettent à la contrainte des programmes de vaccination, donc on peut avoir chez ces enfants des enfants qui présentent de la polio.
Et comment ça se présente, un enfant qui souffre de polio? Comment est-ce qu'on peut le faire quand les symptômes?
Bon, au départ, on a un enfant qui présentera des petits problèmes de diarrhée et par la suite, il n'arrivera pas à marcher. Et par la langue, on trouve que c'est un enfant qui ne va pas utiliser les membres inférieurs. Mais la polio, exceptionnellement, attaque aussi les membres supérieurs.
Et en cas de paralysie, est-ce que c'est réversible? Est-ce qu'on peut en guérir?
En cas de paralysie, on ne peut qu'encadrer cette personne pour qu'il vive avec son mal. C'est comme il y a eu un président américain qui a fait aussi la polio, mais il dirigeait les États-Unis sur les chaises roulantes. Donc nos enfants qui prennent la polio, si on les récupère par la kiné, par le port des appareils pour qu'ils puissent se tenir debout, on peut les faire vivre avec ce mal dans la communauté afin qu'ils soient utiles.
Mmh. Docteur, on vous garde en ligne. Nous avons Arthur qui nous appelle de Mandaka. Bonjour Arthur. Oui, Arthur, on vous écoute.
Oui, moi je voulais intervenir sur deux points par rapport à la polio. Il y a un problème, comme ce que venait de dire le docteur, sur la chaîne de froid. Il y a un problème avec la chaîne de froid. Moi, j'ai une expérience parce que j'étais à l'intérieur de la province ici, et puis la façon dont la vaccination se faisait, donc, au bout de deux premiers jours, pratiquement, le vaccin qui est en train d'être donné aux enfants, c'est le vaccin à chaud, hein. Et moi, je me disais, parce que, il y a ce qu'on appelle le vaccin vivant. Donc, il y a le virus, on a essayé d'atténuer la virulence à partir du laboratoire, et quand on va condenser, en fait, pour en faire des vaccins. Alors, maintenant qu'on a quitté ce que l'industriel a prévu, au lieu que les vaccins soient gardés à chaud, les vaccins soient gardés à froid, mais là, on va donner aux enfants les vaccins qui est gâté, en fait, qui est hors des principes usuels.
Mm-hmm.
N'est-ce pas là un motif qui fasse qu'il y ait toujours résurgence des cas de polio? Bon. En fait, il y a cet aspect. Et puis, le deuxième, il y a l'aspect des prestataires. Les prestataires, en amont, en tout cas, c'est une opération bien sécurisée.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a prévu, pour impliquer toutes les couches. Mais surtout, je parle surtout au niveau des gens de santé à l'intérieur, je voulais que les autorités sanitaires et administratives, et ils se penchent plus du côté de l'argent, et ils négligent pratiquement toute la suite. C'est ce qui fait que même s'il y avait une loi, comme les autres auditeurs ont dit, même s'il y avait une loi pour contraindre les gens à faire vacciner les enfants, parce que la majorité, sans contrainte, accepte de céder leurs enfants.
Mm-hmm.
Mais maintenant que nous qui devrions pratiquer cette loi, quand les autorités administratives se mêlent dans les histoires des enveloppes et qu'ils viennent tout ça, mm-hmm. Et vous verrez que donc la loi n'aura même pas ses effets, même s'il y avait une loi, parce que la loi existe.
Oui. Mais Arthur, quand même, vous savez que le gouvernement congolais, normalement, doit donner quelque chose pour l'organisation de la vaccination. Donc, ça ne revient pas seulement au pays donateur. Donc, il y a la part du gouvernement.
Oui, c'est ça, madame. Si j'ai dit en amont, ici, depuis les donateurs, même les gouvernements, parce que je peux vous avouer qu'il y a des contraintes. Il y a des contraintes J'appelle ça spéculation parce que je n'ai pas reçu, je n'ai pas vu un texte devant moi,
mm-hmm.
et puis qui le redonne, c'est pas la recherche, tout ça. Mais, à chaque fois, s'il y a les mobilisateurs, quand les mobilisateurs passent, ils disent toujours que si vous gardez l'enfant à la maison, et si vous refusez que l'enfant soit vacciné, on fera recours à la police, on fera recours à ceci. Mais concrètement, je n'ai jamais vu des gens qui sont passés pour.
Pour contraindre.
Et la réalité, c'était quoi? Parce que les autorités n'ont pas vraiment la conscience, ils ne voient pas la grandeur ou la gravité de la maladie.
Oui.
Ce qui les intéresse, ce sont les enveloppes.
C'est
ce qui fait que, en tout cas, moi je pense que si nous ne prenons pas conscience, si les autorités, à la base, les autorités administratives et sanitaires, surtout au niveau de l'exécution, ne prennent pas conscience, de vouloir changer les choses, donc nous risquerons de demeurer éternellement à vivre les patients tous les mois, tous les jours.
Oui, merci beaucoup Arthur pour votre participation à cette émission. Vous pensez qu'il faudrait que le gouvernement fasse un effort. D'ailleurs, à ce propos, il y a encore une dette que le gouvernement doit payer concernant les intrants, concernant la vaccination. Donc jusque-là, il n'a pas encore, le gouvernement n'a pas encore donné la totalité de l'argent qu'il fallait pour concernant la vaccination des enfants. Merci beaucoup à Ambroise d'avoir participé à cette émission. Plutôt Arthur, nous avons maintenant Ambroise de Kananga. Bonjour Ambroise.
Bonjour maman.
Oui Ambroise, on vous écoute.
Ça va.
Oui.
J'ai bien suivi l'entretien avec le médecin, la poliomyélite.
Ambroise, nous avons perdu Ambroise. Docteur Richard, vous avez suivi nos auditeurs, hein, il y a beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez quand même leur dire, comme vous êtes un homme de santé?
Parce qu'on m'a pris en cours de route.
Oui, en fait, docteur, il y a eu des auditeurs qui pensent qu'il faudrait vraiment une implication assez costaud du gouvernement. Ils pensent même que même s'il y a une loi qui pourrait peut-être obliger les parents à faire vacciner leurs enfants, que cela ne suffit pas. Donc, il faudrait vraiment, vraiment mobiliser davantage les populations. C'est un peu ça, docteur Richard.
Oui, ce qu'il a dit, c'est vrai. La mobilisation doit se faire à plusieurs niveaux. Nous avons le quartier, nous avons la rue, nous avons les églises, et nous avons les familles, et puis le gouvernement. Si à tous ces niveaux, il y a une forte mobilisation, on pourra drainer les enfants vaccinables vers la vaccination. Mais si il y a le laxisme, le laisser aller, le vouloir des individus, on a les résultats qu'on a là.
Mm-hmm. Oui,
insérer les pénalités. Un parent qui n'a même pas son enfant à la vaccination, on doit le poursuivre. Je pense que c'est un criminel. Pourquoi? Parce que demain, si l'enfant devient paralytique, quand on dit stigmatiser aussi dans la communauté, c'est la faute du parent.
Oui, docteur Richard, il y a aussi ce problème. Par exemple, au Bas-Congo, pour le cas spécifique, on dit qu'il y a certaines croyances religieuses, fétichistes et coutumières qui font que certaines personnes refusent de faire vacciner leurs enfants. Pour ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Pour ce cas, ce qu'il faut faire, c'est d'amener l'information. Le plus souvent, les gens n'ont pas l'information. C'est pourquoi ils se conduisent de cette manière. Si on démontre que le vaccin, c'est un bien préventif pour l'enfant, afin qu'on lui donne l'arsenal des anticorps pour lui permettre de se battre contre ce mal, je crois même la croyance va tomber. La croyance persiste parce qu'on n'amène pas l'information. Ou alors, si on amène l'information, on amène cette information, des mots techniques, le gros mot technique qui promettent les gens, et les gens ne comprennent rien, et puis ils restent dans leur coquille de retour.
Merci beaucoup, docteur. On vous garde quand même en ligne. Nous avons Benjamin qui nous appelle de Nyakungi, dans la province orientale. Bonjour, Benjamin.
Oui, bonjour, madame.
Oui, Benjamin, on vous écoute.
Oui, je vais intervenir à ce problème.
Mm-hmm.
Oui, la première, je dois intervenir sur le problème de l'insécurité qui règne dans notre pays. Ça cause aussi des difficultés pour les vaccinateurs à arriver au fond du village pour essayer de vacciner.
Oui.
Et la deuxième volet, j'essaie d'intervenir pour cause de vaccinateurs. Les vaccinateurs n'arrivent pas à vacciner jusqu'en France. Ils arrivent justement dans des tronçons qui sont visibles, mais arrivent dans des centres du village, ils n'arrivent plus. Mais ça pose aussi des résistances contre la poliomyélite.
Mais qu'est-ce que vous proposez par rapport à cela?
Par rapport à cela, madame, mon idée était assez que le gouvernement puisse prendre en charge aussi les problèmes sécuritaires pour que si ça arrive le moment de la vaccination, que le vaccinateur parvienne à arriver là où il y a même les régions de l'insécurité.
Oui, par rapport à ça, quand même, Benjamin, cela s'est déjà fait, hein, dans le sud de Nord Kivu, là où c'était vraiment difficile, il s'arrangeait pour que les vaccinateurs puissent arriver même dans des endroits où il y avait, c'était vraiment occupé à l'époque, mais les vaccinateurs s'arrangeaient pour trouver une solution, c'est le feu, un compromis, afin d'arriver jusque dans ces zones-là et vacciner. Donc, vous pensez que cela puisse se reprendre et se faire pour que tous les enfants puissent être vaccinés. Merci beaucoup, Benjamin, pour votre proposition.
Une préoccupation.
Vous avez une préoccupation, on vous écoute.
Oui, ça arrive aussi à certains moments. Oui, à vous savoir, avec la vaccination, il y a aussi le respect des chaînes de foi.
Mm-hmm.
Ça arrive à ce que dans nos villages, ça arrive que les vaccins sont déjà... ne sont pas froides.
Oui.
Hein? Mm-hmm. Oui, ça arrive que, parce qu'on recommande à ce que le vaccin soit tellement respecté.
Oui,
mais ça arrive dans nos villages que les vaccins ne sont plus encore froids.
Oui, nous allons poser cette question à Dr Richard, hein, il est en ligne, c'est un médecin, il pourra peut-être nous donner plus d'explications. Merci beaucoup Benjamin d'avoir participé à notre émission. Dr Richard, concernant la chaîne de foie, est-ce que si un vaccin se réchauffe, est-ce qu'il est encore virulent, est-ce que ça peut encore protéger les enfants?
Voici la réponse. La chaîne de foie, c'est une chaîne de protection du vaccin, qui a été préparé pour que son contenu puisse vivre, c'est-à-dire être utile, à X température. Alors, si cette température n'est pas respectée, le vaccin n'existe plus. C'est-à-dire qu'il est inutile.
Oui. Et docteur, qu'est-ce qu'au niveau des villages, s'ils n'arrivent pas à respecter cette chaîne de froid, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les agents de santé?
Oui, il est prévu que le vaccinateur ait un isothermique, donc c'est une boîte qui garde bien le froid, et ça peut même durer plus de 10 heures de froid. Et pendant toutes ces manœuvres de vaccination militaire en village, le vaccin est protégé. Donc on ne peut pas craindre de voir le vaccinateur aller de village en village avec un box dans lequel se trouve le vaccin. Donc tout a été prévu. Et dans le box là, il y a même un accumulateur de foie. C'est-à-dire une poche qui a été refroidie et qui libère petit à petit la température, disons le froid, pour protéger le vaccin. Donc on ne peut pas avoir peur.
Mmh. Mais s'il n'arrive pas à le protéger pendant longtemps, donc ce vaccin ne servira plus à rien.
Oui, mais il est prévu que le foie puisse aller au-delà de 10 heures de travail. Or, il est prévu, donc selon les habitudes, il est prévu 8 à 10 heures de travail. Donc au-delà de 10 heures, le vaccin est encore bon. Il est prévu pour que le vaccin ne s'abîme pas. Là où nous disons que la chaîne de froid peut poser problème, c'est par exemple quand il y a coupure de courant, la chambre froide qu'il y avait, dans laquelle il y avait le vaccin s'est réchauffé, donc ce vaccin là selon là ne sert plus à rien. Ou alors le vaccinateur avec sa bicyclette a connu une chute, le box s'est ouvert et puis tout s'est déversé à l'extérieur, là le produit n'est plus bon.
Docteur, on regarde encore en ligne, on regarde en ligne, il faudrait donner certains éclaircissements à nos auditeurs. Il y a John qui nous appelle d'ici de Kinshasa. Bonjour John.
Bonjour madame.
Oui John, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour un changement de comportement afin d'éradiquer le poliovirus?
Oui, madame, scientifiquement, je voudrais vous dire une chose. Moi, si vous parlez, je ne pense pas que c'est à une chaîne de télévision comme ça, vous allez changer ma qualité d'intellectuel. Je suis intellectuel, j'ai été convaincu par la rumeur, qui n'a jamais été démenti par le gouvernement.
Oui, quelle rumeur?
C'est-à-dire, attendez que je vous explique. La rumeur selon laquelle que les vaccins consommés dans nos pays, pas ce pays cité-là, n'étaient pas propres à la consommation. J'étais dans un pays arabe, là, on ne voulait pas, on n'acceptait pas assez que les enfants puissent consommer les vaccins à l'époque. Alors, il y a un ami de Londres qui est médecin, qui m'avait envoyé un texte que j'ai lu, qui m'avait convaincu. Voilà, je ne vais pas prendre le temps parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs sur la ligne. Je voulais vous poser d'abord une question. Nous, les consommateurs, parce que contrairement, j'ai pris la parole pour réagir contre ceux qui ont dit qu'il faut qu'il y ait des contraintes pour que les gens puissent consommer. Parce que nous sommes des consommateurs. Ça va de la santé des gens. La santé n'a pas de prix. On ne peut pas imposer comme on nous avait imposé à l'époque, dans l'époque ancienne, de nous vacciner avec des cachets qui posent préjudice à nous qui font des voyages dans des pays étrangers. On a la facilité facilement à reconnaître que celui-là c'est un Congolais, celui-là ainsi de suite. Mm-hmm. On ne savait pas l'idée qui était derrière ce qui était en train de nous vacciner. Voilà ma préoccupation qui est là.
Oui.
Je vais poser la question.
Oui.
Y a-t-il des délégués des pays concernés dans nos pays de consommateurs de ces vaccins, lorsqu'on fait le paquetage, lorsqu'on emballe ces produits-là? Et la seconde question, les médecins qui sont en train d'intervenir, qui incitent parfois les gouvernants à pouvoir mettre des contraintes pour imposer les parents à livrer leurs enfants à la prise de ces vaccins. Est-ce que ces médecins-là ont déjà eu, avec les systèmes de contrôle, je peux citer l'OCC, où ces médecins connaissent, est-ce que ces médecins-là ont déjà eu l'occasion d'envoyer les experts, de pouvoir contrôler, parce que selon la rumeur, on disait qu'il y avait des substances impropres à la consommation, ces substances-là, développer la sensibilité sexuelle des enfants. C'est la raison pour laquelle les pédophiles se sont lancés dans ces histoires-là, dans ces sales besoins, afin qu'il y ait des pépinières à travers le monde pour qu'ils aient la facilité de pouvoir avoir les enfants. Lorsque l'enfant accepte d'être violé, là, il ne va pas dévoiler la personne qui l'a violé. Bon, je ne veux pas détailler tout ce qui est dans ces rumeurs-là, mais tout simplement, je voulais vous dire qu'il y avait une substance qui était propre à la consommation, mais qui développait la sensibilité
On a compris votre préoccupation. Hein. Vous voulez savoir quelles sont les garanties qu'offrent souvent les hommes de santé et le gouvernement lorsqu'on amène ces vaccins. Nous avons un médecin
qui est en ligne. S'il vous plaît, pour terminer, madame.
Parce qu'il y a d'autres auditeurs aussi.
Je voulais tout simplement dire ceci. Est-ce que depuis à l'époque du ministre Machako, la rumeur avait pris sa dimension, comme vous l'avez connu. Est-ce que le gouvernement ou le gouvernant ou les médecins ou les scientifiques ont eu au moins la chance ou le courage de démentir ça à travers les gens? Voilà.
Merci beaucoup, John. Nous avons un médecin quand même qui pourra nous donner plus de clarté par rapport à cela. On prend aussi un dernier auditeur. Il s'agit de Jirès. Il nous appelle de Kambov, Katanga. Bonjour, Jirès.
Bonjour madame.
Oui, votre préoccupation en une minute.
Ok, je vous dis d'abord bonjour parce que vous nous rendez beaucoup de bons services.
Oui,
et je dis bonjour aux auditeurs de Radio Capi. Ma préoccupation est la suivante. Mm-hmm. Certains parents savent que les vaccins, ce sont des microbes passifs qu'on injecte dans l'enfant.
Oui.
Mais non, quand on fait la sensibilisation, est-ce qu'on explique comment ces microbes dorment pour lutter avec les microbes qui vont entrer? Ça, c'est un manquement grave. Pour sensibiliser les parents, il faut expliquer que les vaccins, c'est ceci, pas dire seulement non parce que ça tue, ça fait non, il faut dire que les vaccins, ce sont des microbes, quand on fait comme ça, on explique très bien.
Merci beaucoup, Jirès.
La dernière préoccupation, c'est tout que vous avez posé. Pourquoi est-ce ton virus sauvage?
Oui, Jirès, vous avez déjà donné une partie de l'explication. Pourquoi est-ce que le vaccin réagit de cette manière ou de cette façon-là? Bon, merci beaucoup, Jirès. Vous voulez aussi savoir pourquoi on l'appelle virus sauvage. Nous avons le docteur Richard qui nous va nous donner quand même un peu d'éclaircissement par rapport à ça parce qu'il est du domaine. Docteur Richard, vous avez suivi nos auditeurs.
Oui.
Oui, est-ce que vous pouvez leur donner quelques explications?
Oui. La première explication, c'est quoi? C'est que la rumeur n'a pas une base scientifique. Les gens spéculent. Et dans cette spéculation, ça peut pousser les chercheurs à aller vérifier si cette spéculation rencontre réellement des vérités scientifiques. Là, nos spécialistes ne peuvent le faire. Deuxièmement, celui qui a parlé de la qualité du produit par rapport à son contenu, c'est-à-dire on a mis les microbes ou pas, qu'il sache qu'un vaccin peut être un virus, un fragment de virus, ou un microbe dans une bactérie, ou un fragment de bactérie atténué ou détruit. Le principe d'action, c'est quoi? Le vaccin, ce microbe qui est détruit, quand il rentre dans l'organisme, avec toute sa composition, il déclenche la production des anticorps. C'est ça qu'on doit expliquer. Cet auditeur a raison. Ça déclenche les anticorps. Les anticorps sont les soldats qui vont se battre lorsque le virus vivant va entrer dans l'organisme ou la bactérie vivante. Donc c'est ça qu'on doit expliquer, mais on n'explique pas comme ça. Voilà. Alors, en ce qui concerne la chambre de foie, qu'ils sachent que ça c'est le principe de la fabrication. Quand on dit autant de décrets, il faut le respecter. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est resté.
Oui, vraiment, il y a notre auditeur qui était vraiment déçu. Il voudrait avoir plus de précision, parce que quand même, pour les vaccins que nous avons pour l'instant, les vaccinations de routine que reçoivent nos enfants, est-ce que vous pouvez nous garantir que c'est une bonne qualité quand même?
Oui, ça qui vous fait les procédés de fabrication qui nous garantissent.
Merci beaucoup, docteur Richard, d'avoir accepté de votre surtout de avoir donné votre temps pour pouvoir éclairer nos auditeurs. Merci surtout à vous les auditeurs d'avoir participé activement et si nombreux à cette émission. Le prochain rendez-vous avec Parole aux auditeurs, c'est demain à la même heure et notre émission de demain parlera des régies de mobilisation des recettes qui sont mises en place par le gouvernement, les gouvernements provinciaux dans presque toutes les provinces. Les questions, comment ces régies fonctionnent-elles dans vos provinces? Selon vous, quel est leur impact sur l'amélioration de votre vécu au quotidien? Réagissez dès à présent par Internet à l'adresse pa@radiocapi.net. Et merci beaucoup à toute l'équipe Parole aux auditeurs pour la réalisation de l'émission. Il s'agit de Pierrot Elameji et de Mahombi Moukoumia, sans oublier le technicien Alain Ngoy. Bonne journée.